C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily. Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille Poignant et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Aujourd'hui, épisode très spécial puisque j'ai le plaisir d'accueillir un gestionnaire de réseaux sociaux de haute altitude puisqu'il gère les comptes social média d'ASO et du Tour de France. Un homme de l'ombre qui travaille dans les coulisses des plus gros et plus beaux événements français. Il a pour délicate mission de nous offrir au mois de juillet en particulier une déferlante discontinue de contenus tous plus incroyables les uns que les autres pour nous faire prolonger un peu plus la magie du peloton jusque sur les réseaux sociaux. Cette personne, c'est Gustave Deson et nous avons la chance de l'avoir avec nous aujourd'hui au micro du Super Daily. Salut Gustave.
Salut Camille, ça va bien?
Ça va et toi?
Ouais, ça va super. Bonjour à tous.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Eh ben, écoute, est-ce que tu peux te présenter?
Ouais, carrément. Alors, je suis Gustave Deson, j'ai 28 ans et je travaille chez Amaury Sport Organisation, ASO, depuis 5 ans, plus de 5 ans maintenant. Et je suis responsable des réseaux sociaux, dont des majeurs événements sportifs, dont le Tour de France.
Ok, donc tu en as à peu près toute l'année, hein, si je ne dis pas de bêtises. Vous couvrez le Marathon de Paris aussi, notamment. Il y a beaucoup d'animation.
Exactement, ouais. On a trois grands univers. Le cyclisme, en premier lieu, avec le Tour de France, mais plein d'autres courses cyclistes tout au long de la saison. Les épreuves de masse, les épreuves grand public, dont le Marathon de Paris, le Semi-Marathon de Paris et d'autres en France. Et puis le sport mécanique, avec le Rallye Dakar.
Ok, magnifique. Pour le Tour de France, alors nous ici chez Supernatif, on est grands supporters, on kiffe le Tour de France, on kiffe l'historique du Tour de France pour plein de raisons. On peut juste rappeler que le Tour de France, à la base, il a été inventé, si je ne dis pas bêtise, par le journal Lotto.
Ouais, tout à fait. Inventé par le journal Lotto en 1903, il y a 120 ans maintenant.
Et c'est quand même quelque chose d'assez légendaire pour moi et qui colle aussi à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que à l'époque c'était un alibi de communication. Comment on fait pour avoir des choses à raconter au mois de juillet, pendant l'été, alors que c'est un peu plus calme que d'habitude? Et c'est aujourd'hui ce qu'on fait beaucoup en social media. On va y revenir. Vous avez gardé un peu cette inspiration là de votre côté.
Ouais, carrément.
Nous ici chez Supernatif, on travaille pour les marques. On parle souvent stratégie de marque. On aime décrypter, on aime s'inspirer, voir ce qui se passe. Et on en accompagne un certain nombre. Est-ce qu'on peut dire que le Tour de France est une marque déposée par Amaury Sport Organisation?
Oui, tout à fait. Le Tour de France est une marque déposée, exactement.
Donc toi aussi, tu bosses pour plusieurs marques alors?
Ouais, c'est ça, exactement. Le Marathon de Paris, le Tour de France, le Rallye Dakar, il y a plein de marques déposées chez nous, tout à fait.
Est-ce que toi, t'aimes le Tour de France?
Bah, bien sûr. Alors, en fait, au début, quand je suis arrivé chez ASO, j'étais pas un grand fan de cyclisme. Et puis, en fait, en découvrant cette machine, toutes les rouages qu'il y avait derrière, les coulisses, on se rend compte, et puis l'historique, on se rend compte que c'est absolument fabuleux et que ça fait partie intégrante du patrimoine français. Et bien sûr qu'on adore.
On adore. Est-ce que tu as l'occasion d'aller sur le bord des routes du Tour pendant l'été ou est-ce que tu es cantonné à tes missions super stratégiques?
Eh ben écoute, là je reviens de Bilbao puisque donc le grand départ du Tour de France 2023 avait lieu à Bilbao. On a fait trois étapes dans le Pays Basque, espagnol, puis après on est passé en France. Et donc j'étais à Bilbao pour ce grand départ avec toute la super ambiance qu'il y a du côté basque, espagnol et puis français. C'était vraiment génial. On sent vraiment toute la ferveur et puis la joie des Basques à nous accueillir pour ce grand départ. C'était vraiment top.
Ouais, les grands départs, c'est ça qui est assez ouf. Alors forcément, il y a des gens qui sont pas fans du fait que ça sorte de France, mais pour toutes les raisons qu'on connaît, c'est super bien pour le cycliste, pour l'événement. Et c'est vrai que les publics qui nous accueillent en général sont complètement fous. Et on voit même parfois plus de monde que sur les routes françaises. Ça devait être assez impressionnant là-bas.
Ouais, c'était super impressionnant. Il y avait des images de dingue là dans l'école basque. C'était fou. Il y avait des drapeaux basques partout. Le public à fond, et ça c'était assez dingue parce que dès les premières étapes, la première, deuxième étape, on était déjà un peu dans la montagne, il y avait déjà cette folle ambiance qu'on retrouve d'habitude dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et ça a vraiment bien lancé le tour dès ce début de mois de juillet.
C'est un peu la troisième zone de montagne. Il y en a eu trois cette année, quoi, avec le Pays Basque.
Ouais, c'est ça. On peut dire ça. Et en fait, cette année, en 2023, le Tour de France va passer dans les 5 chaînes de montagne françaises.
Magnifique.
Ce qui est assez rare. Ce qui est assez rare dans le parcours, dans les différents parcours.
Ce qui va donner un peu de piment au classement général. On a hâte de voir ça. Et est-ce que toi, tu as déjà eu, alors le Tour, c'est cet événement sportif, là tu le décris très bien, cette ambiance. Est-ce que tu t'es déjà immergé au milieu de la masse, dans vraiment le côté populaire du Tour de France, sur le bord de la route, glacière, parasol, bière, saucisse?
Ouais, l'année dernière, après le grand départ de Copenhague, le Tour passait dans le nord. Il y avait une étape sur les pavés, arrivé à Roubaix. Et donc là, je me suis immergé avec des potes. On est allé faire une journée sur le bord de la route, au bord des pavés. Et il y avait une ambiance complètement dingue. C'était la première fois que je vivais une ambiance dans le style de Paris-Roubaix et du Tour de France sur le bord de la route. Et c'était absolument génial. Je recommande à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent, d'aller sur le bord de la route s'ils en ont l'occasion pour voir passer le Tour de France. C'est vraiment une ambiance magique.
C'est marrant, comme tu me l'as un peu précisé tout à l'heure, tu n'étais pas forcément fan de cyclisme avant, quand tu es arrivé chez Esso sur ce taf-là. Tu as découvert et tu as commencé à t'intéresser, à te passionner, on va dire, pour le cyclisme. Et là, après, toi, tu découvres aussi cette ferveur populaire qu'il y a sur le bord des routes. Moi, c'était totalement l'inverse. Depuis tout petit, j'ai été plutôt baigné dans le côté populaire. Il y a mon père qui m'a vraiment transmis cet amour de ce qui rassemble les gens. Qui fédère les communes par lesquelles le Tour passe, qui nous fait découvrir la beauté de la France aussi. J'ai même travaillé sur la caravane aussi, comme je te disais. Donc, j'ai commencé par ça. Et puis, après, j'ai découvert l'aventure sportive. Et en grandissant, à 25 ans, je me suis dit vraiment, là, c'est un truc de ouf. Et je trouve que vous avez une force aussi. Ça, on n'en a pas parlé, mais il y a deux comptes bien distincts chez ASO. Il y a la caravane du Tour de France et le compte sportif, celui que tu gères en parallèle. Ces deux-là, comment ils vivent ensemble? Comment ils arrivent à trouver leur équilibre? Parce que l'équilibre est très net, je trouve.
Alors, c'est vrai qu'il y a une distinction à faire entre ces deux comptes-là et puis d'autres comptes. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque on gère aussi d'autres comptes parallèles. Disons que voilà, le compte de la caravane, il est vraiment dédié à toute l'animation qu'il y a au bord de la route, des marques, puisque donc j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais il y a un nombre faramineux de marques qui sont dans la caravane et qui font toute la route comme les coureurs, en amont des coureurs. Et donc la communication là-dessus, c'est vraiment voir voilà la caravane qui passe de ville, en village, et raconter un peu l'histoire des caravaniers aussi qui vivent aussi leur Tour de France pendant 3 semaines.
Et ce que je trouve assez ouf finalement, c'est que tout se complète assez bien. Le compte caravane, il va reproduire l'ambiance qu'on a au bord de la route. On va voir les paysages, on va voir les gens, on va voir la bonne humeur, les véhicules, et le compte Le Tour de France, il va compléter ce qu'on peut voir à la télé. Il n'y a jamais question, quasiment pas question de paysage dans ce que vous postez. On est plus sur l'événement cycliste, les performances, les profils des coureurs. C'est des choses qui vont venir en plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je trouve que les deux marchent très bien ensemble. Et c'est une très belle harmonie à conserver quand même, je trouve.
Merci beaucoup. Effectivement, sur le compte principal, on se centre sur le... se focalise pardon sur les coureurs et sur l'aspect sportif. Il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter, et puis on essaye de montrer aussi les coulisses, des choses qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir à la télé, et ça fait partie de nos missions de faire vivre cet à côté là.
Bon, c'est un truc, on va rentrer dans le détail très vite parce que j'ai énormément de questions pour toi sur le Tour de France. Juste avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as envie de nous parler de comment toute l'année, tu gères plusieurs événements sur plusieurs comptes à différents moments de l'année. En fait, c'est des gros temps forts pour une marque, une entreprise générale qui est ASO. Tout comme une marque pourrait avoir plein de temps forts dans l'année par rapport à ses produits, à des événements de l'année, le salon du Made in France, plein de choses. Toi, tes temps forts, c'est animé par des comptes. Comment tout ça s'articule? Comment tu arrives à switcher aussi d'un environnement à l'autre, d'un événement à l'autre? Raconte-nous tout ça, ça m'intéresse beaucoup.
Alors, la première chose, c'est que je suis pas tout seul pour faire tout ça. pour animer tous ces comptes. Au dernier comptage, on est à plus de 20 millions d'abonnés. Ça a dû être un peu modifié depuis le début du Tour de France. Tout compte compris, on est à plus de 20 millions d'abonnés avec 140 comptes qu'on gère tout au long de l'année. Et donc, on est une équipe de 7 permanents chez ASO pour gérer ces comptes. Et évidemment, il y a de la temporalité qui va rentrer en compte puisque on va pas animer les comptes tout au long de l'année sur des épreuves qui ont lieu un seul jour par an. En fait, voilà, tout simplement, Paris-Roubaix, c'est une épreuve qui a lieu en avril, début avril, mais on va pas pouvoir en parler tout au long de l'année. Et donc voilà, on va reprendre la parole à certains moments donnés, tout simplement.
Ok, quand t'as les grandes annonces, et puis après on rentre dans un temps fort événementiel, un petit peu avant, et puis un petit peu pendant, et un petit peu après.
Exactement, il y a une phase de teasing, et puis la phase live, et puis après on fait des retours sûrs, et puis il y a des conférences de presse qui viennent annoncer au cours de l'année.
T'as donné
après, on a des événements majeurs, comme le Tour de France, le Marathon de Paris, où là on va avoir suffisamment d'histoires à raconter, de matière, pour prendre la parole tout au long de l'année.
Ok. Et le reste de l'année, vous avez une volumétrie qui est aussi intense ou vous baissez votre niveau de productivité de publication?
Ouais, on baisse significativement le nombre de posts hors Tour de France, hors live Tour de France, on va dire, puisque voilà, l'actualité est moins dense et donc on diminue.
Ok. On va avoir l'occasion de revenir sur les chiffres que tu viens de nous dire sur tes équipes. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est une des énormes questions. Comment des gens peuvent faire autant de choses? Tu as commencé par 20 millions, je me suis dit, mais ils peuvent pas être 20 millions, c'est pas possible. Non, c'est les abonnés, c'est déjà très impressionnant. Nous, ici, on a des social media managers qui gèrent aussi plusieurs comptes. Là, quand vous me dites que vous êtes 7 pour 20 millions d'abonnés, je trouve ça monstrueux. On va rentrer un petit peu dans le détail tout à l'heure. Vous avez plein de sujets à raconter, alors que ce soit sur toutes les marques, mais aujourd'hui, plus spécifiquement sur le Tour de France. Il y a énormément de sujets à raconter. N'importe qui prendrait le sujet d'un bout ou de l'autre bout et puis trouverait son histoire à dire. Si on voulait parler du Tour de France sur les réseaux, globalement, ça serait facile. Moi, demain, tu me dis, je dois m'occuper de ça. Ça serait facile. Il y a déjà un storytelling global autour de cette épopée qui est la compétition cycliste, toujours plus dure, le dépassement, les nouveaux cols, la France. Il y a des milliers de contenus qui sont déjà créés par des médias partenaires, vos propres médias, vos équipes sur le terrain. Et pour autant, bah vous arrivez quand même à nous épater, à faire du contenu. Alors, ma question, elle est très difficile et très simple à la fois. Comment on fait pour dire les bonnes choses et adapter son récit aux social media quand on a autant de choix et autant d'opportunités?
Il faut définir un angle éditorial et assez rapidement pour pas partir dans tous les sens. Et c'est ce qu'on a décidé de faire en restant sur cet aspect très sportif. Effectivement, sur les comptes principaux. Et donc, on se focalise là-dessus. Et là aussi, il y a quand même énormément de choses à raconter. Comme tu le sais, toi, amateur de vélo, il y a plein d'histoires entre les leaders, mais aussi tout ce qu'il y a derrière, la lanterne rouge, tous les pelotons qui peuvent se former, toutes les arrivées au sommet. On a mille choses à raconter.
Les abandons aussi, non, parce que vous avez fait un contenu assez ouf sur Marc il y a quelques jours là, qui était assez ouf.
Ouais, on a fait un petit détournement. On réussit aussi à détendre un peu l'atmosphère avec des détournements. Et puis on se rend compte que il y a pas que l'aspect purement sportif qui va fonctionner sur les réseaux sociaux. Il y a aussi cet côté un peu décalé, tout en gardant une équité sportive. Avec toutes les équipes notamment, mais ce côté un peu décalé va très bien fonctionner. Et effectivement, tu cites le détournement de Marc, la flamme, le flambeau, en parallèle avec le coureur Marc Cavendish. Ouais.
J'ai trouvé ça très cool. Et tu parles d'angle édito, forcément ça nous parle, nous, toute bonne stratégie, toute bonne relation avec une marque, et même pour nous, tu vois, on fait le travail actuellement pour nous, Supernatif. Commence par poser les bases de cette stratégie, les piliers de contenu, les angles éditoriels que je souhaite adopter. J'ai quelques chiffres avant ma question. Le Tour de France, c'est 25 à 30 stories quotidiennes, 22 posts environ quotidiens sur Instagram, 12 contenus TikTok par jour. Et j'ai pas creusé sur les pages satellites de YouTube, de Facebook et de LinkedIn. C'est juste monstrueux. Comment on arrive à poser une ligne éditoriale, des angles éditoriaux autour de tout ça? Il vous faut un mois, une semaine. À quel moment vous faites ça et comment vous le faites?
Tu as cité les comptes, beaucoup de comptes sociaux, mais tu en as oublié un qui est hyper important chez nous, c'est Twitter.
Ok. Oui.
Twitter,
oui.
C'est le plus gros réseau social. Twitter Tour de France, c'est le plus gros réseau social chez ASO, avec plus de 3,1 millions d'abonnés. Pourquoi ça? Parce que, en fait, le monde du cyclisme est vraiment été à l'origine sur Twitter. Tout le monde était sur Twitter. Parce qu'il n'y avait pas forcément de diffusion en intégralité sur la télévision. Et donc, un moyen pratique de donner des informations de distance, de temps entre les échappés et le peloton, en quasi-simultané, c'était Twitter. Et donc, sur Twitter, il y a ce qu'on appelle les live tweets, que tu dois bien connaître, qui se font, en fait. On fait un live tweet très, très précis de la course. C'est-à-dire que si tu vas sur notre compte Twitter @letour, tu peux suivre la course en intégralité.
Et comment vous le gérez ça d'ailleurs? Parce que moi, je pensais tout bêtement que c'était un journaliste sportif, vraiment pas de l'équipe social media, qui gérait ça complètement à part, comme pourrait le faire un commentateur.
Bah, c'est vrai que tout ce que tu dis est vrai. En fait, sur Twitter notamment, on a presque un rôle de journaliste. L'équipe a presque un rôle de journaliste puisqu'on est... On est très nombreux à être sur Twitter. Il y a trois personnes, au moins trois personnes qui tweetent toute la journée. Qui se relaie pour raconter la course. Et donc là, l'angle éditorial, il est clair, c'est vraiment raconter la course à tous les gens qui nous suivent, interagir avec les différents comptes qu'on a, nos comptes propriétaires, et puis les comptes des équipes, les comptes des coureurs. Il y a plein de choses à raconter tout au long de la journée là-dessus. Pour revenir sur Twitter et nos différents écosystèmes, en fait, on a des comptes aussi parallèles. On anime des comptes partenaires de nos partenaires. On a un compte maillot jaune LCL, maillot à pois Leclerc, qu'on anime tout au long de la journée. Donc, là, il y a aussi une personne qui est dédiée pour cela. Okay. Et l'avantage de cela, c'est qu'on va pouvoir faire des interactions entre le compte principal, le Tour, et ses autres comptes. Contre partenaire, contre annexe.
Ok, donc Twitter, chez vous, gros levier, gros outil. Je divague un peu, mais t'en penses quoi? Ce qui se passe sur Twitter actuellement, est-ce que ça va vous poser problème? Est-ce que la situation est inquiétante? Ou est-ce que tu crois dur comme fer et ça va continuer comme ça?
On se pose pas mal de questions comme tout le monde. On s'en est beaucoup posé aussi le samedi 1er juillet, première étape du Tour de France, où Elon Musk a décidé de limiter le nombre de vues de tweets. Et ça nous a totalement impacté pour cette première étape, puisque on avait prévu un live tweet complet de l'étape, mais en fait, on pouvait même plus voir nos tweets. On n'arrivait même plus à accéder à notre page de profil. Donc ouais, ça nous a beaucoup pénalisé pour cette première étape. Heureusement, il a fait machine arrière et donc maintenant on peut voir suffisamment de tweets, mais et puis surtout accéder à notre profil. Donc ça nous a débloqué la situation, mais la situation est préoccupante et on regarde ce que font les concurrents de Twitter. En premier lieu, Meta. On s'est intéressé à Threads déjà et on va explorer ça progressivement.
Donc là, vous êtes clairement dans une phase où il va falloir explorer, tester, comme tu dis. Nous, on s'amuse beaucoup à tester, puisque forcément, toutes les nouveautés social media, c'est dans notre scope. Mais comment on réagit dans ces cas-là? Tu vois, à tout moment, Twitter peut sauter. Est-ce que vous maintenez ce canal micro-blogging? Est-ce que vous, c'est impératif? Donc, quel que soit l'outil, vous allez devoir le faire? Ou est-ce que vous pouvez aussi imaginer abandonner ce format-là?
C'est un peu difficile de se dire qu'on va abandonner ce format-là, puisque on a, comme je te disais, c'est notre plus gros compte. On a énormément d'interactions sur Twitter. On a tout l'univers du cyclisme est présent sur Twitter. Toutes les équipes sont sur Twitter. Tous les coureurs quasiment sont sur Twitter. Même si on note que la nouvelle génération de cyclistes va basculer un peu plus sur Instagram, mais ils sont quand même tous présents sur Twitter. Et donc, c'est un peu compliqué pour nous d'imaginer de quitter définitivement Twitter. Après, si Elon Musk décide de tout faire sauter, oui, on se posera les bonnes questions. Mais là, à date, en plein Tour de France, c'est compliqué de le quitter.
Bon, on croise les doigts pour vous parce que c'est vrai que dans certains métiers, c'est quand même un super outil. S'il n'y avait pas tous ces mouvements, ça serait moins stressant pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est un super outil. Du coup, je vais revenir sur ma question initiale. À quel moment vous décidez de la stratégie de diffusion social media que vous allez adopter pour le Tour de France?
Alors, on décide de ça, évidemment, en amont. Donc, on a toute une...
C'est mieux,
effectivement. Non, mais je te dis ça parce que après, en fait, on est dans l'événementiel et donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut toujours se passer quelque chose, que ce soit sportif ou extra-sportif. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. On est sur les routes, il peut y avoir n'importe quoi, des intempéries, la course peut être annulée. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte. Mais en tout cas, voilà, on essaie de se fixer sur notre stratégie social media bien en amont du Tour de France. On a toute la première partie de la saison cycliste qui nous permet de nous préparer, puisqu'on a, comme je te le disais, on a d'autres courses. On a Paris-Nice, Paris-Roubaix, le Critérium du Dauphiné, puis Flèche Wallonne, Liège-Bastogne, les Ardennaises, qui nous permettent de nous préparer, de voir un peu les tendances, les dernières tendances qui fonctionnent sur le réseau. Et puis après, on adapte pour le Tour de France. Évidemment, c'est pas du tout la même ampleur, puisque déjà, rien qu'en termes de durée, on part sur 21 jours sur le Tour de France, plus 8 jours de Tour de France Femmes avec Zwift, qui est donc l'épreuve qui enchaîne juste après, qui nécessite aussi d'être animé pendant le Tour de France et en amont. Donc ouais, c'est une préparation qui se fait tout au long de l'année, tout au long du début d'année même.
Et est-ce qu'à un moment, donc il y a plein de comptes, hein, l'exemple pourrait marcher pour tous ces comptes, toutes ces courses. Est-ce qu'à un moment, vous vous posez, vous écrivez, voilà, on a 6 piliers de contenu par exemple, on va faire tant de contenu sur ces sujets-là. Est-ce que ça c'est écrit ou est-ce que chemin faisant, vous vous nourrissez de l'actualité pour composer un peu à votre sauce?
Pour être tout à fait honnête, ouais, on compose en fonction de l'actualité sportive, les nouvelles, les coureurs qui participent ou pas. Donc ouais, tout ça se fait un peu en live sur le moment. Mais okay. on a quand même une trame qui est définie avant, en amont des courses. On sait évidemment qui fait quoi. Ça c'est l'élément le plus important en fait de l'équipe, c'est de voilà la répartition des missions et des comptes et des réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui gèrent Twitter, comme je te le disais, d'autres personnes qui gèrent Instagram, TikTok. Voilà, c'est bien défini pour le coup.
Eh bah, tiens, c'est intéressant. Je veux bien qu'on revienne sur ton équipe. Bien heureusement, tu n'es pas tout seul pour gérer cet énorme flux, ces millions d'abonnés. Comment ça s'articule autour de toi, la prise de parole du Tour de France sur les réseaux sociaux?
Alors, on est une équipe de 8 personnes qui sont dédiés aux réseaux principaux, on va dire les réseaux occidentaux. Donc il y a 3 personnes qui sont sur le terrain, une personne en charge d'Instagram, une personne en charge de TikTok dédiée, et une personne qui va être immergée avec les monteurs dans le camion de montage d'ASO, camion de montage digital, et qui va en fait récupérer toutes les vidéos produites par la production télé, les images sont réalisées par France Télévisions, mais on récupère les images évidemment, et ça va nous permettre d'alimenter toutes les plateformes, on va dire, principalement le live tweet, mais aussi Instagram, aussi TikTok, et donc il va dispatcher les vidéos aux différents membres de l'équipe. Et après on a 5 personnes qui sont au bureau, 2 personnes qui sont dédiées au live tweet tout au long de la journée, et 3 personnes qui sont dédiées aux partenaires, aux comptes annexes. Et donc, c'est la caravane, c'est le maillot jaune Elcel, le maillot à pois Leclerc. Et aux contreparties partenaires, on a aussi une personne qui est dédiée aux contreparties partenaires, puisque le Tour de France possède beaucoup de partenaires.
Ah ouais?
Oui. Et donc, on a des contreparties partenaires à diffuser sur les réseaux sociaux également.
Au milieu, c'est 8 personnes. Qui publie? Parce que ça part dans tous les sens, il y a des plateformes de partout. Est-ce que chacun publie? Est-ce qu'il y a le central commande, toi à Paris, là, qui publie? Comment ça se passe?
Chacun publie. Chacun publie, chacun est en charge d'une mission précise dans la journée. Et alors, comme je te disais, voilà, il y a une personne qui va être dédiée sur Instagram qui va s'occuper de tous les contenus. Évidemment, il y a des choses qui vont être transmises de réseau en réseau, de personne en personne. Ouais. On se répartit des missions pour gagner du temps.
Et sur un événement de cette ampleur, une masse de contenu aussi impressionnante, est-ce qu'il existe des phases de validation ou est-ce que là, tout le monde est parfaitement briefé et ça y va tout seul sur tous ces contenus?
Tout le monde est parfaitement briefé. Et il n'y a pas de phase de validation. On est dans, notamment sur Twitter, on est dans l'instantanéité. Ouais. On retranscrit la course en direct. On n'a pas le temps. Et puis moi, je n'aurais pas le temps de valider tous les visuels, tous les wordings. La règle, c'est s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, on fait valider en interne. On a évidemment des groupes WhatsApp qui partent dans tous les sens. Et s'il y a la moindre doute, on se le valide en interne.
OK. Quand on voit ça, franchement, hein, quand on voit les comptes, alors moi je prends un compte Insta, un compte TikTok, je l'épluche, je le regarde, je fais un lien entre les contenus, les différents hashtags, et je pense que tous les CM, les social media managers qui sont déjà passés sur les comptes TDF doivent se poser quand même la même question. Comment on fait pour produire, créer, publier autant de contenus? Parce que là, tu me parles d'une équipe, mais ces mecs-là, ils doivent avoir quatre bras quand même. Quand on parle de 22 contenus Instagram, c'est monumental. Comment ils s'organisent? Est-ce que tu as une idée de comment ça peut se passer, ça?
Ouais, alors comme je te disais, il y a des contenus qui sont transmis de personne en personne, de réseau en réseau, on va dire. Et puis on s'appuie quand même notamment sur, comme je te disais, il y a une personne qui est dans le camion montage, ouais, ASO, sur le terrain. Et donc lui, il va être en contact avec les monteurs. Et il va récupérer tout un tas de contenus qui sont faits par les monteurs, des professionnels, et qui nous aident beaucoup. On parlait en début de l'interview de Marc Cavendish. Ouais. Le montage, ça, c'est pas quelqu'un qui travaille chez les réseaux sociaux qui l'a fait, c'est un monteur qui l'a fait pour nous.
Okay. Donc vous pouvez aussi vous appuyer sur les forces productives télé ou médias partenaires pour récupérer des petits montages en plus.
Déjà fait, et puis aussi notamment sur les photographes, puisque on a des photographes qui sont sur le terrain, qui suivent la course en direct et qui nous envoient des photos en live. Voilà. Et puis je préciserai quand même sur le monteur, on a un monteur dédié au contenu digital.
Ok. Par exemple, TikTok, qui est-ce qui va faire les montages? Est-ce que c'est tout le temps du coup les médias partenaires, ou est-ce que vous avez aussi des équipes qui font ces montages-là à chaud, quoi, en direct?
Alors, pour TikTok, on a une répartition entre les contenus images de course, donc ça qui sont faits par le monteur dédié dont je te parlais, et puis la personne qui est sur le terrain, qui est en charge du compte TikTok, et qui, elle, va être au départ de l'étape, puis parfois un peu sur le parcours, et puis à l'arrivée, et qui va aller chercher les coulisses, les backstage, le coureur qui descend du bus, le coureur qui arrive épuisé au protocole à l'arrivée, qui s'effondre, le coureur avec son gosse qui l'attend à l'arrivée. Donc voilà, il y a un mix entre ces contenus pro, course pro télé, et ces contenus filmés au téléphone, tout simplement, sur le vif.
Tu pourras féliciter cette personne, hein, parce que ça, on l'a fait, nous, Thibaut et moi, on l'a déjà fait. C'est très intense, ça nécessite d'être super aux aguets pour voir le petit moment qui est cool, qui marche bien, la confiance de le publier, la possibilité de le faire. Et franchement, ce qu'il fait, c'est assez costaud. Il doit faire des belles grosses journées, j'imagine.
Ouais, c'est des bonnes journées, c'est sûr, sur le terrain. Et puis, on la félicite, puisque c'est une fille.
Incroyable. Eh ben, tu la féliciteras. Cette notion de duplicate contenu et du contenu le plus frais sur une action très très immédiate. Est-ce que ça, c'est aussi une partie de votre stratégie au départ, de se dire il y a tout un, on va dire, d'isoler des contenus qui vont être plutôt produits, publiés par les médias partenaires, les médias grand public sportifs, et de ne pas les publier vous? Est-ce que vous avez déjà cette analyse là en départ, une grille de contenu que vous voulez pas publier?
On n'a pas de grille de contenu qu'on ne veut pas publier. Je réfléchis en parlant. On a peut-être. On essaie de pas trop mettre l'accent sur les crashs.
Ouais, bien sûr.
Survenir en course. On essaie de pas trop le montrer. Alors que des médias, même des diffuseurs, auraient plutôt tendance à les montrer. Et après, je précise quand même que toute cette diffusion d'images de course sur les réseaux sociaux, sur nos réseaux sociaux, elle est limitée à un certain nombre de minutes. On peut pas diffuser en live sur Facebook l'intégralité de la course. On doit respecter 5 minutes, contrat diffuseur, on doit respecter 5 minutes d'images de course pendant l'étape. Et puis après l'étape, ça monte à 10 minutes.
Ok. C'est intéressant comme constat, comme délai que vous avez le droit de faire. En même temps, on sait que 5 minutes sur les réseaux sociaux, ça peut être très long. C'est pas très actif. On est plutôt sur du snack content, donc c'est pas trop dérangeant cette limite de temps.
Tout à fait.
On a parlé des gars et des filles sur le terrain, de cette volumétrie de contenu monstrueuse. Moi, quand même. Au-delà des contenus qui sont faits sur place, on a compris comment ça s'articulait, l'instantanéité, la manière de le produire. Quand même, il y a des choses, je n'ai toujours pas compris, il va falloir que tu m'expliques. Certains posts, hein. J'ai noté des choses et toi, tu vas devoir m'expliquer. Ces incroyables assets visuels à mi-chemin entre illustrations et photos type affiches de films. Comment vous faites pour avoir chaque jour parfois les débuts d'étapes, parfois le soir des illustrations incroyables qui vont mettre même jusqu'à mettre en avant les favoris, le nom du gagnant. J'ai en tête cette affiche avec, alors je dis affiche hein, parce que pour moi c'est de la qualité cinéma, avec Jasper Philipsen, Jasper Rocket, une fusée intégrée dans un décor, un texte personnalisé, son nom, sa signature. Comment vous faites ça? C'est pas possible.
Ouais, elle est belle celle-là, la roquette, elle est belle. Hein.
Elles sont trop belles. Comment vous faites pour sortir ça? C'est du contenu chaud, quoi. C'est ouf.
Elles sont très belles. Alors on travaille avec un graphiste très talentueux qui fait ses affiches, qui crée ses affiches. Effectivement, on peut dire affiches de films. Le soir, après l'arrivée de l'étape, il récupère des photos des vainqueurs. Et puis après, on lui laisse libre cours à son imagination. On a évidemment une phase de validation. On oriente un petit peu aussi le sujet, mais évidemment, voilà, on lui laisse le champ libre pour qu'il produise ce qu'il a envie de produire. Et après, il y a deux grands types d'affiches, on va dire. Les affiches de teasing d'étape, donc ouais. Là, qui sont préparées un peu en amont. Donc ça, il a eu le temps de bosser. Donc on a eu Pays Basque, on a eu le Puy de Dôme. Je tease un petit peu. Et on a le 14 juillet qui va arriver. L'arrivée à Paris aussi qui sera préparée et ça il les prépare en amont, mais c'est vrai qu'il est hyper talentueux et super réactif pour nous livrer ces contenus là, ces montages le soir même.
Donc on va dire que les contenus amont, tu me parles du Puy de Dôme là, ça aussi c'était une de mes questions. On a les deux favoris du jour clairement, qui se sont aussi illustrés devant le Puy de Dôme. Moi quand j'ai vu le truc, je me suis dit c'est pas possible, ils l'ont fait ce matin, parce que ça dépend quand même vachement de est-ce que j'ai pas eu une chute la veille d'un de ces favoris, un abandon. T'es quand même obligé d'être dans la fraîcheur sur un contenu comme ça.
Alors l'étape du Puy de Dôme avait lieu le dimanche 9 juillet et nous on avait validé l'affiche, je crois, le samedi 8 au soir. Après par rapport aux deux leaders, aux deux extraterrestres, on va dire, peut-être du classement général, on s'attendait, c'était ouais. Dit, on savait que ça allait arriver, hein. Mais effectivement les photos, pour le coup, ces photos-là sont des photos de la course qui datent du samedi ou du vendredi et qui ont été intégrés dans le visuel.
Ok, donc là le graphiste, on n'en a pas parlé tout à l'heure dans les équipes, mais on va dire que c'est une personne supplémentaire qui est accolée à vous pour arriver à vous fournir ce contenu-là assez incroyable, personnalisé. Juste une dernière question sur lui, hein. Là tu me parlais du soir, moi j'ai l'impression quand je regarde, je suis le feed, que ça sort dans la foulée de l'étape. Combien de temps il met en gros à vous sortir une affiche comme ça quand il a le résultat?
Il met environ 4-5 heures.
Ok, ouais, donc c'est fin de soirée, fin de journée alors que ça sort.
Ouais, c'est quand même en début de soirée, on va dire. L'affiche sort en début. Ton algorithme doit favoriser ce visuel-là, je sais pas.
En avance. Non, mais en tout cas, écoute, c'est en tout cas super intéressant de voir comment on peut être réactif sur du contenu live, hein, finalement, puisque tu as des personnes qui sont dans la rue avec leur téléphone qui peuvent publier, des personnes qui sont le camion vidéo de France Télé et qui peuvent aussi publier. Et ce contenu qui est chaud mais tiède, on va dire, et pour autant qui tombe pile au bon moment, que certaines personnes comme moi perçoivent comme un contenu qui vient juste de sortir, on a l'impression dans la temporalité qu'on est juste après l'étape, tu vois. Donc beaucoup de chapeaux là-dessus. Et ces assets, par contre, les assets photo, même vidéo, hein, j'ai un autre type de format en tête, ça, ils sont pris dans les jours d'avant. Tu me parlais des deux cyclistes sur le Puy-de-Dôme. C'est pris dans les dernières images, ces extracts-là.
Les deux dans le Puy-de-Dôme, ouais, ce sont des extraits, ce sont des photos qui datent des étapes précédentes de la semaine dernière, en fait.
Ok, très bien.
Qui ont été utilisées. Après, je pense que tu avais en tête ce qu'on appelle l'animation vainqueur.
Ouais, bien sûr.
De montage vidéo.
Ouais. Et d'ailleurs, je me suis fait la remarque hier, très habile d'aller épingler trois posts récap. L'arrivée, le winner et puis la dernière action pour que à tout moment de la journée, je me pointe et en fait, je vois ce qui s'est passé la veille, juste un résumé en trois postes, donc très habile ce côté-là. Donc oui, je parlais de ce post winner. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça marche ?
Alors, le Tour de France a commencé le samedi 1er juillet et en fait, tu as une présentation des équipes qui a lieu le jeudi, juste avant, le jeudi 29 juin. Et lors de cette présentation des équipes, il y a un trombinoscope qui est réalisé avec toutes les équipes, tous les coureurs qui passent. Trombinoscope pour notre site internet, pour l'application, pour plein d'utilisations, pour la télévision aussi. Et donc, pour ce trombinoscope, on a intégré aussi cette partie shooting vidéo, animation vainqueur. Et donc là, les 176 coureurs sont passés le jeudi 29 juin et on leur a dit, bah voilà, tu viens de gagner, tu viens de remporter une étape du Tour de France. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu célèbres ta victoire? Il y en a certains avec qui ça fonctionne très bien parce que ils sont plutôt habitués à gagner. Il y en a d'autres qui ont un peu plus de mal. Donc, on a toujours cet aspect pédagogique à expliquer sur le moment.
Est-ce que c'est arrivé qu'il y ait un de ceux qui a un peu plus de mal à simuler une victoire comme ça sur un fond vert qui gagne? Est-ce que tu as en souvenir une vidéo winner qui est un peu foireuse?
Cette année, on peut regarder. Il me semble qu'il y avait une vidéo qui n'était pas... c'est pas la plus belle célébration qu'on ait jamais sortie, hein. Effectivement. Je sais plus quand ça a été posté, ça.
C'est très drôle,
je sais
ça.
Plus. C'est en fait, on leur demande un boulot d'acteur, ce qu'ils ne sont pas.
Puis dans un moment, alors déjà ils sont pas acteurs, ils sont pas non plus, voilà, c'est des coureurs, c'est des mecs qui passent 30 plus de temps sur leur vélo que toi dans ta bagnole à l'année. Tu peux pas non plus leur demander d'être super à l'aise devant les médias, tout ça. Donc c'est déjà énorme ce qu'ils font, hein, franchement, en général. Donc ça, c'était, c'est un peu pour les posts, hein, les trucs que j'avais envie de te demander, parce que franchement, c'est fou la vitesse à laquelle vous arrivez à produire les contenus, à être dans les temps. Sur cette partie instantanéité, donc ça c'est bon, on en a parlé. Vous avez, j'imagine, un certain nombre, et d'ailleurs ça fait le lien vers la prochaine étape, les stories, un certain nombre de gabarits préétablis, de templates qui vous permettent d'être pro, d'être super propre et de pouvoir balancer votre contenu dans un bel environnement graphique sereinement. Je dis pas de bêtises, hein. Il y a quelques templates.
Ouais, c'est tout à fait ça. On a des templates depuis quelques années. On a décidé de charter nos stories et donc d'avoir ce qu'on appelle un footer en bas à droite qui est en fait tout simplement le logo de l'épreuve. On le fait sur le Tour de France, mais on le fait sur toutes nos autres épreuves. Et on a pris ce parti-là, voilà, de charter nos stories pour que voilà, ça soit reconnaissable au plus grand nombre en cas de repartage par les coureurs, par les équipes.
Et ok, c'est très propre, très pro. Dans les stories, il y a un sujet qui nous tient très à cœur chez Pernatif et que j'ai vu que vous utilisiez bien, c'est le côté communautaire. Tous les jours, on trouve au milieu de tout ça des sondages, des questions ouvertes, tout ça. Quelle place ça prend le communautaire, le lien avec la communauté dans votre prise de parole et dans votre travail?
On se rend compte que ce qui fonctionne beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est voilà, c'est l'engagement, c'est les interactions qu'on peut avoir nous avec les équipes, avec les coureurs directement. Et donc on essaye de, et puis aussi avec nos fans. Et donc on essaye de gérer cet aspect-là aussi communautaire, de répondre à des commentaires, de rajouter des petits gifs animés sur Instagram en commentaire. Ça c'est la petite nouveauté cette année qu'on essaye de mettre en place. Et on se rend compte que ça permet de voilà de créer du lien et de bien réagir. En stories, je pense que tu parles aussi du vote pour le meilleur combatif.
Ouais, tout à fait.
Alors, peut-être qu'il faut expliquer aux gens qui nous écoutent que sur toutes les étapes du Tour de France, il y a un combatif qui est décerné par un jury. Ce combatif, c'est un coureur qui aura passé du temps dans l'échappée et qui se sera donné le plus dans l'échappée pour tenter d'aller au bout et de remporter l'étape. Et donc, le jury est composé de professionnels de chez nous, mais aussi de, il y a un vote du public, il y a une voix qui compte pour le vote du public. Et donc là, voilà, sur ce sondage en story, on rebascule sur un module qui est sur notre site internet pour que les gens puissent voter pour ce meilleur combatif.
Donc c'est le lien avec un vote direct en fait. Donc si on participe en story, ça permet d'influencer le vote du combatif. Ok, c'est super intéressant. Écoute, il nous reste un dernier chapitre à voir ensemble, si tu veux bien. Je vais essayer de pas te prendre toute ta journée. Pour moi, c'est un objectif. Alors, on a parlé partenariat, mais il y a 10 000 solutions, possibilités de partenariat. Il y a les équipes, il y a les partenaires majeurs, il y a les partenaires télé. Enfin, en fait, le Tour de France, c'est du partenariat, énormément de partenariats. Moi, c'était plus partenariat de visibilité et de social media. Le cyclisme, c'est le sport populaire par excellence. Ça parle à tout le monde. Ça peut se pratiquer gratuitement, sans limite de temps, peu importe qui. Par le prisme du Tour de France, je trouve que ASO se fait porte-parole de ce sport, se donne pour mission de le faire rayonner partout, auprès de tous. D'ailleurs, c'est une de vos baselines. Et moi, il y a deux axes marquants dans cette stratégie de rayonnement en 2023. Pour moi, il y a cette fameuse série Netflix. Forcément, fallait que je t'en parle. On a d'ailleurs interviewé Steve Chenel il y a pas longtemps dans le Super Daily aussi, qui est passé juste avant toi.
Ouais, super interview, j'ai écouté.
Ouais, t'as kiffé. En fait, on a gardé aussi cette distance, comme dans la série, pour pas en faire quelque chose de trop expert, mais à la fois qui parle à tout le monde. Cette série, c'est un format qui est inédit, qui amène le spectateur au cœur du peloton, et je trouve que c'est un support super qualitatif pour amener le Tour sous un nouveau jour et remettre l'esprit sportif au cœur de l'événement. Peut-être qu'après ça, les gens se déplaceront plus pour le sport que pour la caravane. Ou autant en tout cas. qu'est-ce que ça a été pour vous les conséquences en social media de ce blockbuster qui est sorti sur Netflix?
Effectivement, c'était déjà une super opportunité pour nous, pour ASO en général, d'avoir cette visibilité sur Netflix et pour permettre aux gens de comprendre vraiment ce qu'est le Tour de France, puisque dans cette série, on explique vraiment comment fonctionne un peloton, une échappée, on rentre dans les détails, mais c'est pas du tout barbant, c'est vachement bien. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder cette série. Et alors après, nous, sur les réseaux sociaux, ça nous a permis de prendre la parole au début du mois de juin pour faire le teasing de cette sortie Netflix, et puis de mettre en avant la série. Et nous, on note quand même que ça a ramené du public lorsqu'on faisait des... Au début de Tour de France, on a fait quelques publications pour reparler de la série, et on avait énormément de commentaires de gens qui nous disaient voilà, moi je maintenant que j'ai vu la série, je suis le Tour de France, c'est génial, j'ai hâte, la série m'a redonné goût au vélo, je suis il y a une publication avec Nelson Powles qui date d'avant Tour. Nelson Powles, qui était dans la série, qui est un Américain qui était dans la série et qui a vraiment cartonné. Si vous voulez jeter un œil sur les commentaires, c'est assez... Alors, il va falloir remonter un peu le feed parce qu'entre-temps, on a posté beaucoup.
On regardera, t'inquiète pas.
Mais les commentaires sont top là-dessous. Et puis, en début de Tour de France, on a annoncé la saison 2 de, de Netflix, de Tour de France au cœur du peloton. Donc le tournage a déjà débuté, les équipes de Netflix sont sur le terrain, et puis on prépare un petit contenu surprise qui va sortir dans les prochains jours en collaboration avec Netflix. J'en dis pas plus.
Trop bien. Trop bien. Et tu penses vraiment du coup que ça a été un véhicule pour amener d'autres personnes ? Est-ce que d'autres personnes, un autre prisme ou ramener des gens sur le tour ? Est-ce que toi, vous l'avez ressenti ? Est-ce que vous avez, alors à part ce post qui a très bien marché, mais une vague de, je sais pas, de nouveaux abonnés typiquement ou des nouvelles conversations qui ont pu voir le jour sur vos comptes, une nouvelle typologie d'auditeurs ? Est-ce que vous avez senti ça ?
En termes de conversation, c'est très clair que on a vu surtout le mois de juin que voilà, il y avait beaucoup d'interactions sur le sujet. Après, en termes de nouveaux followers, c'est un peu difficile à déterminer puisque du coup, le Tour de France a enchaîné. Et évidemment, au début du Tour de France, on a un pic, une croissance d'audience, de followers ouais. qui est très, très forte. Donc, c'est un peu difficile de répondre à ta question là sur le vif. On aura peut-être plus le temps d'analyser les chiffres après le Tour, à la rentrée, et on pourra regarder ça. Mais moi, je pense que quand même, il y a un effet Netflix. Je le vois avec mes proches autour de moi. Il y a des gens, voilà, qui s'intéressent beaucoup plus au vélo après avoir vu cette série. On en a quand même beaucoup entendu parler. Et donc tout ça, je pense que ça participe.
Eh ben, c'est une bonne nouvelle pour le cyclisme mondial. Donc merci à Netflix et merci pour cette super collab. Tout dernier sujet, TikTok, fournisseur officiel du Tour de France. Est-ce que tu peux me parler de ce partenariat, ce statut, ce poste, cette annonce ?
Alors, on a l'habitude de voir TikTok partenaire d'événements sportifs. On l'avait vu sur le 6 Nations. Dans mes souvenirs, il me semble qu'il y avait autre chose. Mais voilà, on s'est rapproché des équipes de TikTok France pour mettre en place ce partenariat. Ils ont une stratégie qui est assez intéressante sur la caravane. Ils ont des véhicules dans la caravane publicitaire et ils vont se rapprocher des régions. Et dans ce contrat qu'on a avec TikTok, on a aussi un nombre de posts à respecter sur les réseaux sociaux par jour et aussi une exclusivité. TikTok nous demande des contenus exclusifs, 50% de contenus exclusifs, ce qu'on fait sur le compte TikTok si vous nous suivez, le Tour de France.
Ok, bah ça on les a vus. Et qu'est-ce que TikTok, c'est un partenariat, donc j'imagine que ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que TikTok apporte est-ce que TikTok apporte de la visibilité au Tour de France, au contenu du Tour de France, au sein de sa plateforme ?
Oui, il y a un hub qui a été créé. TikTok met en place, lorsqu'ils sont partenaires d'événements, comme le Festival de Cannes, on l'avait vu, le Cination aussi, mais le Tour de France. Si tu tapes Tour de France dans la barre de recherche TikTok, tu vas tomber sur un hub dédié au Tour de France avec tous nos meilleurs contenus, mais aussi les meilleurs contenus des équipes, les meilleurs contenus des coureurs. Et donc tout ça, ça remonte et ça crée un hub. Il y a un challenge aussi TikTok et il y a un jeu qu'ils ont mis en place, un mini-game sur TikTok. Permet de jouer. Donc, évidemment, il y a une mise en avant du Tour de France sur TikTok qui est très, très importante. Et on l'a vu en termes de croissance d'abonnés, on a fait x2. Là, on est donc le mercredi 12 juillet.
Ouais, on était à 20 000 abonnés, quelque chose comme ça, hier.
Et là, j'ai pas entendu.
On était à 17 000 abonnés hier, tu vois, si tu veux comparer.
Ah ouais. Donc, ouais, ça grossit. Ça grossit assez vite sur TikTok, donc ouais, c'est top.
Okay.
Même sur toutes les plateformes, on a des chiffres de croissance qui sont très bons.
Trop bien. Bah écoute, ça m'intéressait d'avoir ton avis parce que finalement, on parle pas tous les jours avec des gens qui font des partenariats TikTok, qui mettent en place ces dispositifs. Et toi, concrètement, ce que tu as vu, c'est un grossissement de l'audience et mise en lumière de vos contenus par TikTok et des contenus Tour de France plus largement. Eh bien, écoute, merci pour ça. Tu nous as donné beaucoup d'infos. On va forcément continuer à suivre tout ça parce qu'il y a beaucoup de contenu qui sort et ça nous donne une très belle vision de ce qui se passe sur les routes du Tour. Et puis maintenant qu'on connaît un peu mieux les gens qu'il y a derrière, ça va nous éclairer un peu les idées. On avait beaucoup de questions en suspens et tu y as bien répondu. Donc, merci beaucoup, Gustave, pour ça.
Merci à vous pour l'invitation, c'était top. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux du Tour de France. et à suivre ce magnifique duel qui a lieu entre les deux leaders au classement général, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. C'est top.
Bon, pas sûr qu'on s'abonne aux 40 comptes hein, que vous administrez, mais en tout cas, on va aller voir ce qui se passe un peu partout pendant toute la fin du tour. Merci à toi, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.
Merci, à très bientôt.
Salut, ciao.